une saison au théâtre. Bonjour à toutes et bonjour à tous.
1, 2, 3, 4.
C'est une nuit à Hiroshima. Après Hiroshima, elle et lui se rencontrent, passent les heures dans une chambre d'hôtel. Elle doit repartir le lendemain. Elle est actrice, elle joue dans un film sur la paix. Il est architecte, s'occupe de politique. Elle est française, il est japonais. C'est une nuit à Hiroshima qui se déploie jusqu'à Nevers, où elle a aimé un Allemand autrefois. C'est une nuit à Hiroshima qui n'a de début et de fin que celle d'une première et d'une dernière phrase. Tu n'as rien vu à Hiroshima, rien. Ton nom à toi est Nevers, Nevers en France. Mais je vous prie de me croire, même enserrée entre ces deux phrases, cette nuit-là n'a pas de limite.
Une nuit, une fête, on me laisse sortir. C'est le bord de la Loire, c'est l'aurore. Ce n'est pas tellement longtemps après que ma mère m'annonce qu'il faut que je m'en aille dans la nuit à Paris. Elle me donne de l'argent, je pars pour Paris à bicyclette, la nuit. C'est l'été, les nuits sont bonnes. Quand j'arrive à Paris le surlendemain, le nom Hiroshima est sur tous les journaux.
Nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec Fanny Ardant, elle interprète sur la scène des Bouffes Parisiens Hiroshima mon amour, le texte de Marguerite Duras, en vérité un scénario que la romancière avait écrit pour le cinéaste Alain René. Fanny Ardant est seule sur scène, l'homme n'est pas là mais sa voix est enregistrée, cette voix c'est celle de Gérard Depardieu. Nous parlons aujourd'hui d'un théâtre qui a les nerfs à vif, d'un théâtre qui cherche le vrai, d'un théâtre fou d'amour. Dans théâtre où le verbe triomphe, nous parlons d'Hiroshima mon amour et de Marguerite Duras. Nous parlons avec Fanny Ardant. Vous êtes bien dans une saison au théâtre, nous sommes ensemble jusqu'à 16h. Bienvenue. Bonjour Fanny Ardant.
Bonjour.
Je le disais, vous êtes seule sur la scène des Bouffes Parisiens pour jouer Hiroshima mon amour, récit d'une nuit d'amour et de paroles entre un homme et une femme, seule dans l'espace, mais pas seule dans les mots de Marguerite Duras, puisque Gérard Depardieu, votre partenaire, est présent par la voix. Je crois que Bertrand Marcos, qui adapte et met en scène le spectacle, aurait souhaité que Gérard Depardieu soit présent sur scène avec vous, et vous avez préféré pas. Pourquoi ?
Je pense que la présence de Gérard, carnale, avec la force, aurait été difficile de faire croire que c'était un japonais. Alors que là, on peut dire qu'elle est dans la chambre, mais peut-être qu'elle est depuis longtemps loin de la chambre, qu'elle se souvient de comment il lui parlait. Donc la présence physique aurait rendu quelque chose d'immédiat et de charnel, alors que là, c'est le souvenir qu'on a d'une nuit à Hiroshima. Et comme toute cette histoire, finalement, c'est sur l'oubli qui irrémédiablement arrivera. Je crois que... Et puis, le côté magique de Gérard, c'est sa voix, la douceur incroyable, la précision. C'est cette magie du verbe, comme vous disiez. Et d'entendre des mots, quelquefois, c'est encore plus fort que de voir la personne.
Je me suis demandé si son absence physique n'était pas un moyen pour vous de créer le manque, parce que, au fond, cette femme dont il est question dans la pièce est en manque d'un homme qu'elle a aimé, cet Allemand, aimé à Nevers et qui n'est pas là, et qu'elle convoque à travers cet homme avec qui elle est, qui est le Japonais.
Complètement. Complètement. Et puis, je pense toujours, l'intérêt, c'est de vivre quelque chose et d'entendre les secousses, comme après une bombe, de ce qu'on avait avant déjà vécu et qu'on pensait qu'on ne revivrait plus jamais. Et que c'est vrai ce que vous dites. Moi, ce que je trouve magnifique dans le verbe, dans le théâtre, c'est exactement ça, c'est de convoquer. et les vivants et les morts, et le visible et l'invisible. Et alors, cette nuit, est-ce qu'elle s'est passée il y a 20 ans? Et comment cet homme lui-même pousse cette femme dans ses retranchements pour parler non seulement de l'amour, mais de l'interdit de l'amour? Parce qu'en fait, dans le scénario, vous vous souvenez que cet homme est marié, qu'elle est mariée. Ils sont comme ça dans cette espèce de no man's land qui n'appartient qu'à eux, où il n'y aura pas un début, un milieu, une fin. Ça a été comme une sorte de fulgurance.
Elle est démoniaque, la pièce de Marguerite Duras, Hiroshima, mon amour. Vous faites allusion au visible et à l'invisible. On pourrait dire qu'elle se déroule entre un passé, oui, un présent, un avenir, aux lignes troubles, entre un ici et un ailleurs, entre le souvenir et le réel, entre le cauchemar et le rêve. Et donc la seule présence tangible, et c'est là que Duras est génial, c'est l'acteur, c'est l'actrice. La seule présence qui est pour le spectateur le point d'ancrage, c'est vous.
Celui qui parle.
Celui qui parle.
Celui qui dit. Et je pense que, voilà, c'est comme une mise en abîme. J'imagine Marguerite Duras, que c'était comme une sorte, tu sais, l'écriture sacrée. Et puis que cette écriture soit proférée. C'est-à-dire, elle refait le monde. Elle se guérit de blessures sûrement incroyables. Et elle se sauve à travers la parole. Je pense toujours que c'est pour ça que c'est magique le théâtre. Parce que c'est une convention incroyable, mais la convention est partagée par le spectateur et par celui qui parle. Cette boîte obscure dans laquelle tout d'un coup, on croit que cette femme a connu ce Japonais, qui se sont aimés, et qu'elle a fait revivre cet amour fou pour ce soldat allemand pendant la guerre. Et je me dis, c'est pour ça que le théâtre ne mourra jamais, parce que le spectateur est mis en demeure de dire « crois-moi ».
Il y a quelque chose sur la scène est vide, il n'y a aucun élément de décor, il y a juste les lumières, on va en parler d'ailleurs. Quelque chose sur le théâtre et plus encore que ça sur la nuit du théâtre. Fanny Ardant, oui, vous apparaissez, vous êtes tout en noir, d'ailleurs vous êtes en noir, là devant moi au micro, habillée en noir. Mais il y a quelque chose qui se dit sur la nuit du théâtre et aussi la nuit de la parole et la parole qui naît du noir.
Oui, on pourrait dire même qui naît du ventre, de l'intérieur du ventre. De là où ça a été fécondé, où ça a mûri, et où tout d'un coup il faut que ça crie. Et je pense aussi que dans le théâtre, ce que j'ai beaucoup aimé dans Bertrand Marcos, le metteur en scène, c'est qu'il a les purs, que rien ne vienne distraire la parole. Que, vous savez, moi je vais souvent au théâtre. Et que souvent le théâtre, c'est un art magnifique parce que, on pourrait dire presque 9 fois sur 10, on s'ennuie.
Et c'est bien.
Mais oui, c'est bien. Mais comme la lecture, tu vois, parce qu'on a à l'intérieur de nous un muscle qui fait que ça fait rien. C'est comme si on tombe de bicyclette, on va recommencer. C'est pas, ça ne veut rien dire sur le théâtre en général et ça ne veut rien dire sur la littérature. Mais que ce noir, mais on pourrait parler même le noir de l'amour, tu vois, de l'indicible presque. Et puis qu'on, à tâtons dans le noir, on va essayer de le définir.
Il y a une scène, je donne une image pour l'auditeur, très belle, où vous êtes couché par terre, allongé sur le sol, et il y a juste la lumière qui vous enveloppe. Cette scène est extrêmement sensuelle, assez érotique, et je me suis demandé si à ce moment-là, pour vous, la lumière est une caresse, Fanny Ardant.
La lumière, depuis le début, elle est comme une alliée et une ennemie. Elle a quelque chose qui me convoque, que je dois obéir, je dois rentrer dans la lumière et en sortir. Donc, c'est comme, vous savez, c'est une alliée, un adversaire, quelquefois. Et que, dans la lumière, celle qui brûle, justement, une lumière forte, vous vous sentez protégé. De la même façon que vous pourriez être protégé par l'ombre. Que c'est toujours l'ombre de la lumière et la lumière de l'ombre. Et que marcher aussi dans ce chemin au début, la lenteur, il y a le gouffre du spectateur, on va vers le noir en fait. On va vers celui qui écoute, écoute-moi, regarde-moi.
Le noir, c'est une forme de sauvagerie qui peut se dire.
Oui.
Quelque chose
complètement.
D'inaliénable.
Oui.
Est-ce que c'est pour ça que les acteurs, une fois qu'ils montent sur une scène de théâtre, n'ont qu'un désir, c'est d'y revenir. C'est pour goûter à ça, Fanny Ardant. C'est pour ça que vous y revenez, et tout le temps, souvent avec Marguerite Duras.
Oui, je pense que j'ai souvent parlé de cet amour-haine du théâtre, et qu'il y avait quelque chose de sauvage, comme vous dites, de barbare, de presque... Quelquefois, on me demandait, qu'est-ce que vous sentez avant de rentrer sur scène? Et moi, j'ai dit, une joie et une colère. Il y a quelque chose comme si c'était à vif, comme si on est nu, comme si on tombait dans la fosse au lion et qu'on allait, malgré tout, s'en sortir vivant. Il y avait ce risque inouï du théâtre. C'est pour ça que toujours, il y a, oui, la colère, mais je pense que la colère, ça vient de la crainte. Et que, regardez, quand vous marchez dans la campagne, ça vous est jamais arrivé de rentrer dans une forêt et qu'il y avait un chien qui déboulait. Mmh. Eh bien, si vous regardez le chien et que vous êtes en colère, il se calme. Mmh. Il se dit, ah, elle va me raconter quelque chose. C'est pas une ennemie. Ou comme les taureaux qui déboulent dans l'arène. Donc, vous avez raison. Dans le théâtre et dans la parole de Marguerite Duras, il y a une telle vérité. Une telle audace de la vérité. Et une telle... Je suis là. Je suis là. Et je dis. Alors, je pense que il y a eu des textes que j'ai dit de Marguerite Duras qu'elle avait écrit complètement pour le théâtre. Par exemple, dans La Jungle. Je sais que c'était une adaptation
d'Aaron James.
Mais sa marque de fabrique est inouïe. Et je sais, il y a les papiers d'Asperne. Moi, j'aimerais un jour jouer ça aussi. Et puis, il y a les textes dans lesquels, souvent, quand on me demandait, j'ai travaillé souvent avec une violoncelliste que j'adore, qui est Sonia Vider-Atherton. Quelquefois, on se parle. Alors, on disait, faudrait qu'on cherche un texte. Puis je cherche. Et puis tout d'un coup, dans le téléphone, je dis, un petit Duras. Et hop, elle revient avec une force inouïe. Parce que peut-être que, dans ce que dit Duras, je crois tout ce qu'elle dit. Elle pourrait être comme une sœur jumelle. Je crois ce qu'elle dit. Et sur l'amour. Et que quelquefois, elle m'a fait du bien, parce que souvent j'ai cru, enfermée dans moi-même, que j'étais folle de penser certaines choses sur l'amour, sur le couple, sur les hommes. Et puis tout d'un coup, elle l'a dit. Vous savez quoi, c'est toujours ce qu'on cherche dans la littérature. Et là, je suis même pas une actrice quand je parle de ça. C'est que tout d'un coup, vous êtes foudroyée. Parce que vous lisez, vous dites, je ne suis pas toute seule.
Et qu'est-ce qu'elle dit sur l'amour? En tout cas, qu'est-ce qu'elle dit dans Hiroshima, mon amour?
Alors d'abord,
Fanny Ardant.
Ce que je pense qu'elle dit de l'amour, c'est qu'il peut vous brûler, que vous pouvez en mourir, mais que vous devez absolument le conserver intact en vous parce que vous allez oublier. C'est ça, le tragique. Que ça, par exemple, parce que moi, ce que j'aime, c'est comme quelque chose, on pourrait dire, tellement populaire, l'histoire d'amour. Justement, quand elle dit histoire de Katsu, histoire de roman photo. Mais qu'en même temps, tout amour est sacré. Tout amour est inouï. Parce que je pense que dès que vous rencontrez quelqu'un et que vous vous ennuyez, si vous lui faites parler de son histoire d'amour, c'est sa couronne. C'est ce qui fait qu'il est un homme, une femme magique à ce moment-là, quand il parle de son histoire d'amour. C'est pour ça que c'est tellement fort quand elle dit « Oui, de même que dans l'amour, cette illusion existe, de pouvoir ne jamais oublier. De même, j'ai eu l'illusion devant Hiroshima. » Donc vous voyez cette espèce de tamponnage magique, parce que la bombe aussi, le coup de foudre, l'attraction phénoménale qu'on peut avoir pour quelqu'un, c'est du domaine du « Il ne restera que des cendres. » Tu vois, de l'anéantissement. Et souvent, elle parle de l'amour, justement, très loin de honneur, famille, patrie, très loin de construire quelque chose, un amour qui va vous dévaster, dans lequel vous saurez qui vous êtes. Pas pour construire, mais pour aller au noyau dur de ce que vous êtes vraiment.
L'année dernière, à Trouville, on s'était déguisés. Avec des passoires qu'on se mettait sur la tête. On avait tous des passoires de cuisine sur la tête. C'est prodigieux. On faisait peur aux gens parce qu'on se mettait sur les balcons. Et ils se demandaient ce que c'était que ces astronautes. C'est un souvenir de fou rire, mais à mourir. À mourir, ça. Voilà, c'est illuminant, ça, ce fou rire. On ne pouvait plus respirer, moi je croyais que j'allais mourir de rire. De les voir tous les trois, et puis j'en avais un aussi. J'ai beaucoup de passoires. Celle cassée, on prenait aussi. Mais Yann est inoubliable en passoire. Mon fils en a fait un poster. Il l'a agrandi. Ces photos-là, oui, j'aime ça. J'aime beaucoup, beaucoup rire. Je ris en général aux histoires très bêtes. Et je les aime comme ça. Comme les deux personnes en vacances qui s'écrivent, des cartes postales. Je suis très bien. Là où je suis, je vois Monte Carlo. Et l'autre répond, ben, moi je suis très bien aussi, mais je vois jamais monter personne. L'histoire de mon fils me faisait rire aux larmes aussi quand il était petit. Et je participais à leur jeu. Ils avaient refait une affiche sur l'alcoolisme. Il y avait un enfant qui suppliait son père de ne pas boire. Et il disait, papa ne boit pas, pense à moi. Et mon fils et son copain avaient ajouté tout. Papa ne boit pas tout, pense à moi.
Voilà, Fanny Ardant, c'est un peu incongru dans cette émission, mais moi j'adore le rire de Marguerite Duras. C'était l'extrait d'un Bon Plaisir réalisé en 1984 par Marianne Alphand. J'aime passionnément ce rire parce que c'est aussi l'humour dont elle était capable. C'est la sève qui était la sienne et je me demandais de quelle sève étaient gorgés les mots de Duras pour vous. Qu'il a pratiqué de manière assez assidue parce que là vous jouez Hiroshima, mon amour, mais vous avez joué d'autres textes d'elle.
Je pense que c'est très juste ce que vous parlez de la sève, de ce qui circule, comme de l'hémorragie, la vie, de ce qui sur, alors avec le drôle, le comique, le ridicule, mais l'enfance, l'envie, la stupéfaction. Ouais, on sent que elle s'intéresse à tout. Et moi, j'aimais beaucoup, beaucoup quand elle avait fait ses chroniques dans Libération. J'aimais l'idée qu'elle prenne le pouvoir sur tout et qu'elle dise ce qu'elle pensait avec sa magie à elle et puis sa façon, l'audace de la pensée. Je pense qu'il n'y a pas de vie sans audace. Il n'y a pas de circulation contradictoire aussi. Bon, il faut être contradictoire. On peut être avec le tragique et le comique. Quand on lit tout Duras, on voit ça. Je pense plomber, forcément. Mais en même temps, quand elle parle de Yann Andrea en passoire inoubliable, ils ont dû rire, Yann Andrea et elle. Puis les dérives en voiture, les bars. Puis en même temps, la souffrance. Moi, je trouve de tout faire cohabiter.
Il y a des phrases très fortes dans Hiroshima, mon amour. Je ne vais pas toutes les citer, mais par exemple, à un moment donné, vous venez dire, face publique, ce qu'elle dit, j'ai l'honneur d'être déshonorée. Parce qu'en fait, l'héroïne a eu une histoire avec un jeune Allemand pendant la Seconde Guerre mondiale, a été enfermée dans une cave, a été tondue. Ça, c'est pour l'explication, mais ça va au-delà de ça. Il y a quelque chose chez Marguerite Duras qui affirme l'impureté comme étant une possibilité de vie. La transgression menant à cette impureté comme étant une possibilité de vie. On sent que ces mots-là, vous les reprenez totalement à votre compte, Fanny Ardant.
Oui, je pense que d'abord, le déshonneur ne peut venir que du diktat d'une société. Je vais au-delà de ma propre mort, mais je l'assume. J'ai vécu parce que je me suis jetée à cœur perdu dans quelque chose qui allait peut-être me détruire et qui m'a détruit. Tondu, mis dans la cave, l'opprobre des uns, la mère qui n'ose pas s'approcher. Donc, le chemin de croix. Mais en même temps, je regrette rien. C'est-à-dire toujours l'individu seul avec sa trajectoire difficile, sombre quelquefois, mais jamais rentrer dans l'ordre, jamais rentrer dans la soumission, jamais rentrer dans la morale, parce qu'elle le dit aussi, je suis d'une moralité douteuse. Et lui, le japonais, dit, mais ça veut dire quoi? Douter de la morale des autres. C'est-à-dire, cette énorme liberté, vous parliez de l'étincelle, tu vois, de la sève. Dès qu'on est animé par ça, même le déshonneur, on s'en fiche. Donc le fait d'avoir été déshonoré, et elle dit aussi, c'est dans la cave ou tout d'un coup l'amour de cet homme, parce que d'un seul coup, c'était comme une sorte de foi absolue dans ce qu'elle vivait. Et qui dit foi dit martyr, et qui dit martyr dit purification de... C'est presque mystique. Et ça, j'aime beaucoup ça, tu vois, parce que si on me dit c'est pas raisonnable, ben tant mieux. Parce que si on, toute sa vie on est raisonnable, alors on sera passé à côté de quelque chose.
Est-ce que d'une certaine manière, elle vous autorise à être plus que ce que vous n'êtes, Fanny Ardant, comme elle a autorisé à un moment donné la littérature à être au-delà d'elle-même? Est-ce qu'elle autorise l'actrice et aussi la femme que vous êtes à être autre que ce que vous n'êtes?
Je pense que c'est une sorte de, comme je parlais de l'ombre et de la lumière, qui se nourrit soi-même. Tout d'un coup, on lit, on est très jeune, et tout d'un coup, on choisit des camps. On choisit son camp. La littérature et la poésie est plus fort que un curé en chaire, parce que vous dites, je serai jamais cette femme ou je serai cette femme. Donc, elle m'a, en effet, c'est comme dans une gamme de Rémi, fa sol. Tout d'un coup, elle m'a ouvert des horizons, comme je vous disais, où je n'étais plus seule. Et en effet, elle permettait à toute la sauvagerie personnelle de s'étendre.
Et outre cette métamorphose dans laquelle elle vous a mené, quel plaisir avez-vous à dire cette phrase d'Horacienne ?
Je pense que c'est presque de l'inconscient. Je ne me suis jamais trouvée dans une difficulté. Par exemple, c'est même quand l'Alexandrin de Racine, ou la phrase de Marivaux, ou peut-être Jean Genet, tu vois, c'est des styles. Tandis que j'avais l'impression que Marguerite Duras, elle avait écrit pour moi. Je me disais, elle a écrit pour moi. Et je pense que c'est toujours la marque des grands auteurs, où tout d'un coup, dans la respiration, comme une partition musicale, avec les silences, parce que même quand vous voyez un texte de Duras, il y a des blancs, donc il faut les respecter, ces blancs. Et c'était une musique qui me correspondait. J'avais commencé par la musica, et j'aimais justement une sorte de musique, de répéter les mots. Souvent, moi, on me dit toujours, mais tu me l'as dit déjà 3 fois. Mais je dis, je sais que je l'ai dit. Et donc, tout d'un coup, je trouvais dans la littérature quelqu'un qui répétait la phrase. Et que, tu vois, comme obsessionnel. Et que dans l'obsession, il y a toujours, je pense qu'on est tous de nature obsessionnelle. Et que, elle-même, si on pouvait voir toute la littérature de Marguerite Duras, elle a toujours parlé de la même chose. Comme un grand philosophe ne parle toujours que d'une seule chose, comme un grand homme politique ne devrait parler que d'une seule chose. Et puis, l'affiner.
Elle creuse en profondeur.
Voilà. Et puis, elle a écrit à tous différents âges de sa vie. Elle a connu les hommes, elle a connu l'amitié, elle a connu l'amitié des femmes. Elle s'est nourrie de tout. Et l'alcoolisme, tu vois, j'aime bien parce que dans... Peut-être qu'elle prend encore
ça
plus.
Ça vous plaît, ces excès, hein, les excès, oui, de la vie de Marguerite Duras. Vous aimez,
oui,
ça, hein.
Beaucoup.
Vous vous y reconnaissez?
Oui, parce qu'en plus de ça, plus que je vais là, vers ma mort, et puis je me dis, mais alors, j'aurais connu, moi j'ai vécu dans le climax d'une société libre, et tout d'un coup, une sorte d'obscurantisme, de petits puritains, de petits maestrino de l'école qui vous dit, ça c'est pas bien, hein, et ça non plus, fais attention. Et tout d'un coup, la force de son propos, de ce qu'elle jette à la figure, ah, c'est une merveille.
J'étais dans la semaine qui vient de s'écouler devant un autre spectacle avec un texte de Duras mis en scène. C'est L'homme assis dans le couloir. C'est mis en scène par un très vieux monsieur que j'aime beaucoup, qui est Gabriel Garon. Et c'est un texte très érotique, L'homme assis dans le couloir. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'à l'intérieur du texte, à un moment donné, Marguerite Duras, qui écrit, intervient comme spectatrice, voyeur, narratrice de la scène d'amour sexuel qui se passe entre l'homme et la femme. Est-ce que vous avez le sentiment, vous, en jouant Hiroshima mon amour, qu'elle rentre par moment par une porte dérobée et qu'elle est là à vos côtés, qu'elle est en train de parler à vos côtés dans le texte même, Fanny Ardant?
Curieusement, une fois que je suis sur scène, j'oublie que ça a été écrit. J'oublie qu'il y a un auteur.
Vous l'écrivez vous-même?
Oui,
à ce moment-là.
J'étais tellement... Parce qu'au fond, je dis toujours que mon seul luxe, c'est d'être montée sur scène que pour dire des choses que j'avais envie de dire. Que tant pis, je préférais finir à l'assaut populaire, mais que je ne dirais pas quelque chose que je n'aime pas. Donc forcément, dès que vous aimez, vous rentrez dedans, vous savez, comme les bains chauds dans les forêts. Et après, j'oublie. Mais je pense qu'après, quand vous me dites cette phrase, j'ai l'honneur d'avoir été déshonorée, je peux bien l'imaginer, Marguerite Duras, disant ça, sachant manier comme un petit couteau bien aiguisé la provocation, pour voir aussi. Pour, vous savez, quand vous jetez un pavé dans la mare pour savoir quel rond ça va faire. Et là, quand vous m'avez fait écouter cette conversation avec Marguerite Duras, bon, ça devait être bien.
Marianne Alphon, oui.
De rentrer dans sa salle à manger, de parler.
S'asseoir à la table de cuisine, d'avoir verre.
Mais moi, je trouvais que c'était très audacieux, l'homme assis dans le couloir. Parce que c'était même, tu vois, il y avait quelque chose, à l'époque où elle l'a écrite, tu vois, je pouvais penser à la levée de bouclier. Mais une expérience érotique, forcément, qu'il faut être vrai et sentir le soufre. Sinon, alors bon, écrit, n'importe quoi.
Vous soulignez tout à l'heure le fait qu'elle a effectivement publié dans Libération une série de chroniques qui ont donné lieu au volume intitulé L'été 80. Qu'est-ce qu'elle écrirait aujourd'hui, à votre avis?
Ça serait magnifique.
Dans les temps que nous vivons, retour de la morale.
Les lynchages médiatiques, les jugements, les phrases sorties de leur contexte, le côté bien-pensant, plus jamais d'exagération. De se conserver intact, pourquoi finalement? Pourquoi avoir les exagérations? Il faut les vivre. Donc, en fait, il faut toujours, pour moi, c'est pour ça que je l'aime tellement, il faut toujours considérer la société comme un danger. On pourrait dire, oui, mais la société vous protège. Mais si peu. Elle vous met toujours sur un état de jugement. Donc, l'ordre, la société. Et pendant ce temps-là, la vie est passée. Pour avoir voulu plaire à qui? Donc, elle aurait beaucoup de choses à dire. Je pense que l'été 80 aurait été... L'été 2019, bien compact.
Et elle vous aurait trouvé, vous, Fanny Ardant, pour porter ce texte sur scène, je n'en doute pas.
Oui, j'aurais aimé. J'avais faim. Faim d'infidélité, d'adultère, de mensonge et de mourir. Depuis toujours, je me doutais bien qu'un jour tu me tomberais dessus. Je t'attendais dans une impatience sans borne, calme. Dévore-moi. Déforme-moi à ton image afin qu'aucun autre, après toi, ne comprenne plus du tout le pourquoi de tant de désirs. Nous allons rester seuls, mon amour. La nuit ne va pas finir. Le jour ne se lèvera plus sur personne, jamais, jamais plus. Enfin, tu me tues, tu me fais du bien. Nous pleurerons le jour des fins avec conscience et bonne volonté. Nous n'aurons plus rien d'autre à faire, plus rien que pleurer le jour des fins. Du temps passera, du temps seulement. Et du temps va venir, du temps viendra. Où nous ne serons plus du tout nommés ce qui nous unira. Le nom s'en effacera peu à peu de notre mémoire. Puis, il disparaîtra tout à fait.
Nous devons malheureusement... Fanny Ardant, nous séparer ici, c'est la fin de cette émission. On se quitte avec Sonia Vider-Atherton et votre voix que les spectateurs peuvent entendre au Théâtre des Bouffes Parisiens. Vous jouez Hiroshima, mon amour, adapté et mis en scène par Bertrand Marcos. C'est jusqu'au 7 juillet, c'est bien évidemment Marguerite Duras. Merci beaucoup Fanny Ardant. Je rappelle qu'une saison au théâtre s'écoute, se réécoute, se podcast à l'infini ou presque sur le site de France Culture. Chouchane Djergaillan, Jean-Guy Lamège, Vanessa Najjar, Joël Gaillot vous saluent. Il est 16h sur France Culture et vous avez rendez-vous avec Aurélie Luneau et son magazine de Cause à Effet. Très bon dimanche à vous tous.